Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 pour ce nouveau direct de Famille, justice, enfance depuis votre banlieue du Périgord. Là, et sur Internet, nous sommes aujourd'hui avec David Guyon. Nous allons parler dysfonctionnement de la justice, délais extrêmement longs et choses qui vont pas bien. David Guyon, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être revenu. Alors, vous êtes fait une petite réputation sur Internet, notamment à l'époque, me semble-t-il, pour le pass sanitaire et pour les vaccinations Covid et autres. Et vous êtes un petit peu l'avocat, on va dire, pas poil à gratter, mais celui qui, vous n'hésitez pas à critiquer l'État, me semble-t-il.
Alors, l'État est un adversaire comme un autre. C'est tout ça que j'essaie de rappeler, c'est-à-dire que l'État est notre obligé. C'est lui qui doit nous rendre des comptes, et pas l'inverse. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, l'État sait tout de nous, et avec l'IA et la collecte massive des données personnelles, ça ne va pas s'arranger, alors qu'en réalité, nous, on devrait tout savoir d'eux, notamment comment on fait pour avoir un dérapage budgétaire de 1000 milliards d'euros.
Eh bien oui.
Je rappelle, c'est toujours pas.
Mais oui, la surveillance, normalement, c'est pas l'État sur les citoyens, c'est les citoyens qui devraient surveiller l'État.
Tout à fait, et vous voyez bien que c'est extrêmement difficile d'avoir en fait un vrai audit des finances publiques. On ne sait pas comment on fait pour se tromper de 1000 milliards. Après tout, à qui ce n'est pas déjà arrivé?
Ok. Donc David Guyon, vous êtes avocat, vous oscillez entre Paris et Montpellier, vous avez un site internet avec des capsules là, depuis un certain nombre d'années qui sont quand même assez suivies. Qui est David Guyon?
Un citoyen comme un autre, qui a eu la chance, grâce à ses parents, de pouvoir faire des études et devenir avocat. Et comme je le disais tout à l'heure à un de mes clients avec qui je discutais, quand je suis devenu avocat, j'avais envie que mes parents soient fiers de moi. Donc évidemment, lorsque j'ai choisi mes combats, j'ai choisi mes combats parce que je les trouvais justes. Et c'est pour ça peut-être que je me suis fait cette réputation à tort ou à raison.
Ok, donc avocat à fac de droit.
Fac de droit à Bourges.
À Bourges.
Fac de droit.
Ok, d'accord. Vous êtes spécialisation en fac de droit, là, ou vous êtes allé au master directement, et puis après, l'école d'avocat?
Alors, vous avez très rapidement, dans les universités, vous allez voir, ça va être intéressant, on va faire un petit parallèle. Dans les universités de droit, les grandes universités, comme Montpellier, par exemple, je donne cet exemple parce que j'y ai enseigné, je connais un peu mieux le fonctionnement de la popote interne, rapidement, vous devez choisir au cours de la deuxième année si vous allez plutôt partir sur du droit privé ou sur du droit public. Mmh. Ça a son importance, vous allez comprendre pourquoi. Ça a son importance parce que, historiquement, le droit public, le droit des conflits avec l'administration, c'est un peu le parent pauvre du droit. C'est-à-dire, c'est un droit de sous-étudiants, de... Vous voyez, c'est un droit de pauvre. On ne fait pas ça quand on est quelqu'un de bien, parce que souvent, on va à l'université de droit parce que papa et maman sont déjà dans ce monde judiciaire. Historiquement, c'est comme ça que ça s'est construit. Et le droit public, à partir des années 70-80, a commencé à monter en puissance progressivement. Aujourd'hui, si on voit le rapport du Conseil d'État de 2025, c'est quand même un peu plus de 4 millions de requêtes par an. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc, je pense qu'on est très loin aujourd'hui de ce cliché. Mais vous le savez, après un atome, le plus dur à briser, c'est une réputation, une idée reçue. Et là, clairement, dans les facs de droit, ça n'a pas changé. Lorsque vous êtes en fac de droit, 80-90% des étudiants vont plutôt partir dans une filière droit privé et vont mettre complètement de côté le droit public, c'est-à-dire les contentieux avec l'État. Hein, c'est ce qu'on est en train de faire. On va parler de délai énormément long de la justice aujourd'hui. Hein, c'est un contentieux avec l'État. Donc, ils vont mettre complètement de côté, si bien qu'ils n'ont assez peu, évidemment, de culture juridique sur le droit administratif. Et c'est problématique, notamment pour les avocats, parce que si vous n'avez même pas conscience et connaissance qu'il peut y avoir toute une partie du contentieux avec l'administration, bah parfois, vous pouvez faire perdre une chance sérieuse de succès à un de vos clients. Et Dieu sait que j'en récupère des clients qui me disent « mais je ne savais même pas que ça existait » et je leur dis « vous savez, votre avocat non plus ». Donc, il ne pouvait pas vous le conseiller. Et ça, c'est problématique parce que, clairement, bah parfois, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, j'ai un exemple en tête d'une personne qui est restée en errance judiciaire pendant plusieurs années. Elle avait eu des avocats. Malheureusement pour eux, je pense qu'effectivement, en deuxième année de droit, ils ont bifurqué et ils ont complètement oublié leur cours de droit administratif qui aurait pu être particulièrement utile là pour leur client.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites là actuellement parce que nous, notamment, on se rend compte que le tribunal administratif fait vraiment partie de nos stratégies. Et que de plus en plus souvent, comme le système judiciaire de manière générale se délite un petit peu et fonctionne pas forcément toujours extrêmement bien, une des manières de se défendre, c'est aussi sous la forme, de critiquer la forme et le respect des textes. Et là, on rentre effectivement dans le droit public.
Oui, tout à fait. Alors, le droit public, c'est un mot un peu galvaudé, mais ça représente plein de réalités. C'est par exemple les prestations sociales. Si vous avez si vous bénéficiez du RSA, qui vous permet de survivre, hein, évidemment, on ne vit pas avec le RSA, mais on survit. Si jamais la CAF décide de vous stopper le versement du RSA ou de vous demander de rembourser le RSA, c'est un contentieux qui se passe devant le tribunal administratif. Vous voyez, c'est déjà, ça concerne un paquet de personnes. Vous êtes agent public, il y en a 6 millions en France, vous avez un contentieux avec votre employeur, c'est le tribunal administratif. Donc, ça concerne tout le monde.
Le département vient, le département vous prend vos enfants sans respecter les codes de procédure, c'est aussi, éventuellement, le TA.
Ce sont aussi des décisions du tribunal administratif. Vous êtes, on en a beaucoup, hein, assistante maternelle, vous avez un agrément du département. On soupçonne qu'il y a des faits de violence. Parfois, vous savez, les dénonciations elles peuvent être motivées par des raisons plus ou moins obscures qui n'ont rien à voir avec ça.
Une dénonciation, c'est une dénonciation. Hein, voilà, c'est, ouais.
Donc le département peut vous stopper immédiatement sur présomption de culpabilité. Parce que là, il n'y a pas d'innocence, il y a des enfants en jeu, on ne prend pas de risque. Sauf que derrière, en fait, on s'aperçoit que c'était juste parce que les parents ne voulaient plus vous payer. Bon, ça, on en connaît aussi, hein, des histoires comme ça.
On en voit aussi dans les divorces et dans les séparations conflictuelles. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque moi, j'ai plein de questions à vous poser. Comment on fait lorsque ça ne marche pas bien? Et la première grande question, qui est quelque chose que vous avez développé sur votre site, hein, vous avez d'ailleurs une accroche extrêmement forte dessus, c'est déjà les procédures qui prennent trop de temps. Alors, définition, cadrage, qu'est-ce que c'est qu'une procédure qui prend trop de temps? C'est combien trop de temps?
Alors, on demande toujours à chiffrer, c'est quoi un délai déraisonnable?
Voilà.
Un délai déraisonnable de la justice, moi, je l'ai fixé à 24 mois. Mais ce chiffre, c'est ceinture bretelle. Parce que si vous prenez les chiffres du ministre de la Justice, en fait, on s'aperçoit que par procédure, il y a une moyenne de la durée de procédure. Exemple, tribunal correctionnel, 8 mois. Tribunal judiciaire, 12 mois. Conseil de prud'homme, 13 mois. Ça, ce sont les chiffres officiels du ministre de la Justice pour dire ce qu'est en moyenne une procédure devant cette juridiction.
C'est déjà très long. C'est très, très long.
Déjà très long. Mais on considère que ces délais moyens ne constituent pas une faute. Pourquoi? D'accord. Parce que la jurisprudence, la loi, si vous voulez...
L'usage.
Il faut, grave. Il faut vraiment qu'il y ait un dysfonctionnement manifeste. Pourquoi? D'accord. Parce qu'on considère que c'est une mission qui est complexe, parce qu'on considère que l'État fait évidemment le maximum et qu'on ne peut pas lui reprocher tout délai anormalement long, parce que sinon on passerait nos vies à engager leurs responsabilités. Donc la jurisprudence est plutôt très tolérante avec l'État. Et on considère donc qu'un délai déraisonnable, ça va être aux alentours de 24 mois. Mais le chiffre que je vous donne, c'est le chiffre que nous, on a remarqué dans l'application de la jurisprudence. Ce n'est pas un chiffre officiel. Mais ça permet déjà de se dire, tiens, quand j'ai une procédure, si ça fait plus de 24 mois que ça dure, je dois penser tout de suite à délai déraisonnable.
C'est-à-dire que le délai déraisonnable, c'est entre le dépôt de plainte et l'audience. Par exemple, vous êtes accusé de quelque chose dans un divorce ou autre, ou madame, je sais pas, il y a une violence intrafamiliale et autre, ou il y a une agression sur un enfant. C'est le temps entre les faits, la plainte et le temps où c'est jugé. C'est ça qu'on estime, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, il faudra distinguer les différentes procédures.
D'accord.
Si on est en matière pénale, évidemment, c'est la première fois où vous vous adressez aux forces de l'ordre, au procureur de la République. On va considérer qu'à partir de ce moment-là, vous avez saisi le juge, vous avez saisi l'administration, et donc il y avait une obligation d'instruire votre affaire si celle-ci révélait qu'il y avait bien une infraction qui était commise.
D'accord. Votre enfant s'est fait agresser à l'école, vous portez plainte, le chronomètre démarre.
Le chronomètre démarre parce qu'on devrait être dans une société où, si une infraction a été commise, on doit systématiquement la poursuivre.
D'accord.
Mais la réalité, c'est pas ça.
D'accord. Donc, dans ce cas-là, on dépasse les 2 ans, il se passe toujours rien, et là, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos recours?
Alors, le délai normalement long de la justice, c'est pas un remède miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous êtes victime d'une procédure excessivement longue, ça va pas forcément réduire significativement la procédure que vous avez en cours. Mais ça a 2 intérêts stratégiques, et c'est ce que je mets toujours en avant auprès de mes clients. Premier intérêt, on fait indemniser le temps d'attente. C'est pas inintéressant. Vous ne récupérerez pas le temps. Le temps passé est perdu définitivement. Par contre, ça fait toujours plaisir, évidemment, d'être indemnisé et reconnu comme étant victime. Donc, la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris considère que lorsque le délai devient déraisonnable, c'est 300 € par mois de retard d'indemnisation au titre du préjudice moral. Préjudice moral, c'est le principal préjudice qui est indemnisé, mais il n'y a pas que ça. Hein. Si jamais, par exemple, en raison de la lenteur de la justice, vous avez dû perdre une maison, un bien ou quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, on peut aussi étendre la possibilité d'indemnisation à ces autres préjudices à partir du moment où on démontre qu'il y a un lien direct et certain avec la lenteur de la justice. Donc parfois, ça peut être des dossiers à plusieurs dizaines de milliers d'euros d'indemnisation.
Est-ce que ça peut être fait a posteriori ? Par exemple, vous êtes accusé de quelque chose, l'enquête se déroule, vous êtes jugé 4 ans plus tard, et à cause de ce délai, par exemple, il y a une rupture de lien avec un enfant. C'est en ce que, après, vous allez vous plaindre.
Oui, oui.
On a combien de temps pour le faire ?
Tout à fait. Alors ça, on va revenir dessus. Oui. Je vous donne le deuxième intérêt de la procédure de délai anormalement long. Votre recours est toujours en cours, et vous vous dites, ça serait quand même pas mal que mon dossier remonte en haut de la pile. Délai anormalement long. Vous saisissez le tribunal judiciaire dans lequel votre affaire est en cours. Le président du tribunal est saisi de cette assignation. Il dit, bah mince, qu'est-ce qui se passe dans mon tribunal ? Et là, d'un coup, votre dossier remonte en haut de la pile. Ça, c'est intéressant, ça fait avancer les dossiers.
Au détriment des autres, malheureusement.
Au détriment des autres. Vous savez, hein, les clients les plus rapidement servis, c'est souvent les plus pénibles. Ben, c'est un peu pareil pour la justice.
D'accord.
C'est souvent les dossiers les plus pénibles, où les clients sont les plus exigeants, qui sont en haut de la pile. Donc là, c'est une tactique qu'on peut mettre en place pour faire remonter votre dossier en haut de la pile.
D'accord.
Maintenant, pour répondre à votre question, quel délai j'ai à partir d'une décision de justice pour engager la responsabilité de l'État ? La réponse est très simple, c'est 4 ans. 4 ans à compter d'une décision de justice devenue définitive. C'est ce qu'on appelle la prescription quadriennale. J'en ai déjà très longuement parlé sur ma chaîne YouTube parce que, en fait, c'est un mécanisme extrêmement important à maîtriser si jamais vous estimez que l'État vous doit une somme d'argent. Parce que la prescription quadriennale, on pourrait, si vous voulez, la comparer à une sorte de chronomètre. Mmh. Vous avez 4 ans pour demander votre réparation. Si le temps est écoulé, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas subi de préjudice. Ça veut juste dire que vous ne pouvez plus demander réparation. Donc, c'est vraiment un compte à rebours. Et la question la plus technique à laquelle il faut répondre, c'est à partir de quand ça commence ? Eh bien, pour un délai anormalement long de la justice, c'est à partir du moment où la décision de justice est rendue, parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez déterminer très précisément si vous aviez ou non un délai qui a été raisonnable.
D'accord. Ok, donc ça, c'est intéressant. Donc, on va résumer pour les gens, de manière générale, dans une procédure. Une fois que la procédure est enclenchée, si elle n'avance pas, vous pouvez essayer d'envoyer des petits tics pour la faire avancer plus vite. Et une fois qu'elle est terminée, si elle a duré beaucoup trop longtemps, si elle a duré beaucoup plus longtemps que ce qui se passe habituellement dans les normes constatées, vous pouvez aller demander des indemnités. C'est ça ? J'ai bien compris ?
Tout à fait.
D'accord.
Vous avez 4 ans à partir donc, de la dernière décision rendue par le tribunal judiciaire, la cour d'appel, par le système juridictionnel. Donc 4 ans, ça laisse quand même le temps de voir venir. Et surtout, nous, ce qu'on a essayé de faire pour un peu aider un maximum de personnes, c'est qu'on a créé un simulateur sur notre site internet qui permet, en fait, en tapant la date à laquelle on saisit le juge, d'avoir une estimation. Alors évidemment, c'est une estimation. C'est très important de revenir là-dessus. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, 24 mois, c'est le chiffre que nous, on a fixé parce que c'est un délai qu'on a constaté comme étant le plus fiable. On estime que raisonnablement, au-delà de 24 mois, il y a un problème.
D'accord.
Mais la Cour européenne des droits de l'homme, la jurisprudence, mais en général, elle vous dit toujours qu'en matière de délai raisonnable, on ne fixe pas un montant précis. Pourquoi ? C'est normal. Parce que tout d'abord, ça ne voudrait rien dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est toujours une appréciation au cas par cas. On doit regarder le comportement des parties. Si votre adversaire, il fait tout pour jouer la montre, est-ce que c'est vraiment la faute de l'État ? Non, c'est juste que vous étiez face à un con qui a fait de son maximum pour essayer de vous ennuyer.
Ouais,
donc, il a multiplié les instruments de procédure, il a multiplié les procédures, il a multiplié les parties, il a multiplié les écritures. Et l'État est entre, finalement, le marteau et l'enclume. Il doit assurer, d'un côté, ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Il faut que, systématiquement, vous ayez le temps de répondre. Donc, ça, c'est le marteau. Et l'enclume, le fait de rendre une décision dans un délai raisonnable.
Mais ça, c'est lorsque vous avez des conflits entre deux citoyens. C'est pas lorsque vous avez une poursuite de la part de l'État.
Alors l'État aussi peut parfois être un petit garnement, on va pas se mentir. Il peut jouer aussi la montre, mais c'est plus subtil. C'est plus subtil.
D'accord.
Donc ça, le premier point, c'est le comportement des parties. Deuxième point, c'est la technicité de votre affaire, la complexité de l'affaire. Si on est sur une question de prime qui ne vous a pas été accordée lorsque vous êtes un agent public, bon, c'est une chose. Si vous êtes sur la question de la garde de vos enfants, c'en est une autre.
Ah oui.
Et si vous êtes en train de parler d'un marché public à plusieurs millions d'euros avec une multitude de candidats et évidemment énormément de mémoires, d'écritures et de pièces, la complexité de l'affaire n'est pas exactement la même. Et le troisième critère qu'on prend en compte, et donc ce qui veut dire que pour certains, ce sera un délai déraisonnable, pour d'autres, ce sera un délai raisonnable, c'est l'importance que le dossier a pour la personne. On l'a dit tout à l'heure, si c'est la vie de vos enfants qui est en jeu, 6 mois, 12 mois, 14 mois, c'est trop long. Si par contre, on est sur un contentieux, il n'y a pas forcément un grand enjeu, et Dieu sait, parfois, c'est le cas, hein, je donne un exemple, les servitudes de passage. Bon, c'est toujours un peu pénible quand vous avez votre voisin qui vous bloque l'accès au chemin, mais C'est pas d'une urgence vitale.
Oui. Vous voyez. Mais c'est, là, c'est donc, pas vos enfants qui sont dans un foyer en train de se faire violer, quoi. C'est pas la même chose.
D'accord. Vous êtes volontairement deux extrêmes.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'est toujours au cas par cas.
Bien sûr.
Et peut-être que, par exemple, si vous êtes au seuil du dernier jour de votre vie, votre dossier et le fait que la justice rende une décision rapidement ne sera pas apprécié de la même manière qu'un autre dossier.
Bien sûr. D'accord. Les avocats qui font ce genre de choses, parce qu'en fait, on en parlait un peu en off, mais je vais vous redire ce que j'avais dit à ce moment-là. Il y a des petites juridictions où tout le monde se connaît un petit peu, suivez mon regard et autres, et ils n'aiment pas critiquer l'État. Et vous expliquez aussi le fait que les gens n'aiment pas critiquer l'État parce qu'ils ont oublié leur droit administratif en début d'études, en début de parcours d'études. Les avocats qui font ce genre de choses, ils ont quel profil et comment ils se rémunèrent ?
Alors, je vous ai dit effectivement, déjà le droit administratif, c'est une matière de privilégiés, je vais des guillemets, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas suivi les sentiers battus. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'on est très peu, et vraiment très peu. On n'est pas très nombreux en réalité en France, proportionnellement par rapport aux autres avocats. Et je compare toujours les avocats comme aux différents métiers du bâtiment. Si vous avez un problème de plomberie, c'était pas hyper pertinent d'aller voir un électricien.
D'accord.
Là, c'est un peu pareil. Si vous avez un problème de délai énormément long de la justice, c'est quand même peut-être bien d'aller voir plutôt un avocat publiciste ou un avocat qui fait régulièrement du délai énormément long de la justice parce que c'est un peu une matière de spécialité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est on va attaquer l'État. Alors, si on devient avocat pour se fâcher avec personne, on a vraiment mal choisi sa voie. Parce que être avocat, c'est forcément avoir des gens qui ne vous apprécient pas.
Ah, on devient spécialiste du conflit quand on est avocat quelque part.
Du conflit ou de la résolution du conflit,
parce oui, que vous oui, savez, non, mais le conflit va jusqu'à la résolution, tout à fait. Il y a plusieurs aspects dans le conflit, bien sûr. Oui.
Bien sûr. Mais de toute façon, par nature, l'avocat prend parti. Ne serait-ce que parce qu'il est l'avocat d'une personne qui a sa propre vérité, qui va se confronter à une autre vérité.
Bien sûr.
Donc, vous allez forcément déplaire au moins à la partie adverse, à minima. La deuxième chose, l'avocat est censé être indépendant. Indépendant et libre. D'ailleurs, c'est marqué dans un livre qui s'appelle le RIN, le Règlement Intérieur National. Vous le savez, quand les choses sont évidentes, il n'y a pas besoin de les écrire. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, et le jour se lèvera après la nuit. Et il y a un livre pour vous expliquer ça. Donc, si vous l'écrivez, peut-être que, voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. Donc, libre et indépendant, bon, ce qu'on a constaté, c'est qu'évidemment, lorsque vous êtes avocat, parfois, il y a des gens avec qui vous n'avez pas envie de vous fâcher. Donc, vous n'allez pas forcément engager la responsabilité d'un notaire, la responsabilité d'un huissier de justice, ou même d'un confrère. Et puis parfois, simplement, vous n'avez pas envie d'être mal vu. Si vous attaquez un arrêté préfectoral qui impose le port du masque en extérieur, bah, attaquer cet arrêté, ça peut vous faire percevoir comme étant un avocat un peu complotiste, un peu anti-masque. Et donc, il y a peut-être des marchés publics qui vont se perdre.
Ah, mais il y en a qui le disent ouvertement. Hein. Non, moi, je ne vais pas critiquer le juge, je ne veux pas être vu en telle compagnie et tout, parce que ma carrière au secours, ce sont des choses qu'on peut entendre parfois, hein. Ça peut exister. Hein.
Vous avez raison, j'allais conclure là-dessus. Où effectivement, lorsque certains dossiers sont arrivés dans mon cabinet, j'avais des confrères qui me disaient « Moi, je ne traiterai pas ce dossier parce que tu vas être mal vu auprès du juge. » Alors là, vraiment, mince, être mal vu auprès du juge. Alors, je comprends. J'ai travaillé en juridiction. Je sais qu'il y a des avocats, quand on voit arriver leur dossier, on se dit « Encore un ». Mais nous, notre but en tant qu'avocat, c'est pas de plaire au juge. Si on veut plaire au juge, on change de métier, on devient juge. Mais c'est pas de plaire au juge. Par contre, ce que le juge est en droit d'attendre, c'est que vous fassiez un travail de qualité. Vous lui simplifiez le travail. Que vous soyez capable d'être, on va dire, pédagogue, structuré dans vos écritures et de raconter une histoire de la manière la plus objective possible pour lui expliquer un peu comment s'est déroulée l'histoire qu'on va lui raconter. Et puis que vous soyez le plus carré possible sur les arguments juridiques que vous allez sortir. C'est ça qu'on attend de vous. Après, évidemment, on aura peut-être parfois des dossiers un peu plus folkloriques. Votre but, c'est de voir est-ce que c'est défendable.
Okay.
Si c'est pas défendable, votre rôle en tant qu'avocat, c'est de dire à votre client, vous allez perdre du temps et de l'argent, n'y allez pas. D'accord, c'est ça votre but. Mm-hmm. Si par contre, il y a évidemment des chances de succès raisonnables, vous en parlez avec votre client et puis on y va. On n'a pas besoin que ce soit dans la mouvance de la grande jurisprudence. Je rappelle qu'il existe tous les jours des revirements de jurisprudence. C'est quoi un revirement de jurisprudence ? C'est on a toujours jugé comme ça et à partir d'aujourd'hui, on va juger complètement différemment. C'est ça un revirement de jurisprudence. Il y en a régulièrement. Comment ça arrive un revirement de jurisprudence ? Ça arrive parce qu'il y a un avocat qui se dit « Tiens, cette règle de droit aujourd'hui, elle est quand même mal appliquée. » et elle est injuste. Donc, je vais essayer d'expliquer et de convaincre un juge qu'aujourd'hui, on doit revenir dessus. Mmh. Et peut-être qu'il n'est pas convaincu devant le premier juge, peut-être qu'il n'est pas convaincu devant le deuxième juge. Et puis finalement, à la Cour de cassation, au Conseil d'État, bah, les juges suprêmes décident, bah non, finalement, ça tient la route, hein, ce qu'il dit. Et donc, on va trancher différemment. Mmh. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous voulez être d'accord avec les juges, il faut changer de métier, hein, faut pas faire avocat.
D'accord. J'ai interviewé ici quelqu'un, un parent, qui avait son enfant, qui devait voir en médiatisé, et ça a pris longtemps, et il a fait condamner l'État pour déni de justice. C'est encore une autre procédure, ça.
Alors, le déni de justice, c'est ça rejoint le délai anormalement de la justice. C'est-à-dire que le délai anormalement de la justice, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une procédure qui a été excessivement longue, mais ça peut être également deux procédures qui sont contradictoires et qui veulent dire exactement le contraire. Exemple, on vous reconnaît comme étant le créateur d'une peluche qui est extrêmement particulière, et de l'autre côté, on vous dit que vous n'êtes pas le propriétaire de cette peluche. Bon, ben là, vous avez deux décisions de justice qui se contredisent. Mmh. L'un dit blanc, l'autre dit noir. Et vous devez évidemment les appliquer en même temps, ce qui est impossible. D'accord. Ça, c'est un délai de justice. Donc là, ce que vous m'avez décrit, c'est plus un délai anormalement long de la justice. C'est effectivement la lenteur de la justice qu'on peut faire sanctionner.
D'accord. OK. Au niveau du tribunal administratif ou au niveau du droit procédural, aujourd'hui, est-ce que vous avez noté d'autres choses que l'on peut utiliser lorsque nous, pauvres béotiens, nous sommes confrontés parfois pour la première fois à toute cette machine? Là, je parle aux gens qui arrivent et qui découvrent, hein, soit parce que avec madame, ils ne s'entendent plus et donc ils vont aller voir un juge familial pour divorcer, ou alors parce que leur enfant s'est agressé à l'école, ou alors parce que il y a des plaintes qui arrivent ici. Ça fait aujourd'hui partie de la vie de beaucoup de nos concitoyens. Hein. On est un nombre de placements d'enfants qui est assez important et de familles monoparentales séparées qui est assez important. On se rend compte qu'on fait de moins en moins de droits, qu'il y a de plus en plus de dysfonctionnements. Lorsque non seulement les délais sont trop longs, mais qu'en plus il y a des décisions qui ne reposent pas sur des textes, à part la Cour de cassation dans 4 ans, qu'est-ce qu'on a comme possibilité ?
Vous n'avez pas grand-chose, malheureusement. C'est un peu la réflexion que je me faisais il n'y a pas très longtemps. C'est que vous avez devant le juge administratif une procédure d'extrême urgence qui a déjà démontré son efficacité, qui s'appelle le référé-liberté.
Oui.
Référé-liberté, pour vous donner un exemple, c'est... il y a deux exemples. Le premier exemple, c'est Monsieur Mbala, donc
Dieudonné,
qui attaque le soir, on lui interdit l'après-midi, référé-liberté. Pourquoi ? Parce que là, dans 10 heures, il faut qu'il soit fixé. Mmh. Est-ce qu'il y a représentation ou pas ?
Ouais.
Donc ça, en 2015, Manuel Valls, qui était donc le premier promoteur des spectacles de Dieudonné, hein, parce que ça ne pouvait pas en être autrement, avait multiplié les arrêtés d'interdiction de ces spectacles, et on avait vu l'efficacité redoutable de la juridiction administrative, qui était capable dans la journée, à la fois le matin, d'annuler, enfin de suspendre un arrêté, recours en cassation, enfin recours en appel devant le Conseil d'État, qui est le juge d'appel des référés-libertés, et qui tranche 2 heures avant le spectacle. Donc c'est redoutablement efficace.
Ouais.
Moi, je l'ai déjà utilisé également lorsque j'avais des enfants qui étaient sous les ponts. Mais véritablement, ils sont expulsés, ce sont des immigrés, ils sont dans la rue, il n'y a pas de solution pour eux, les enfants vont dormir sous les ponts, référé-liberté. Et là, je mets le conseil départemental, je mets la commune, la métropole, je mets tout le monde.
Bien sûr.
Et on se retrouve à 15 à l'audience et on me demande, mais pourquoi tu as fait ça ? Et parce que je ne peux pas concevoir qu'on va laisser des enfants dormir sous un pont. Et effectivement, dans la journée, on avait trouvé une solution.
Bien sûr. D'accord.
Ça, le référé-liberté, très, très efficace, mais son homologue devant le juge judiciaire n'existe pas. C'est-à-dire demain, vous avez votre voiture qui est chez un garagiste et le garagiste vous dit la voiture, je ne vous la rends pas. Vous êtes parti pour des mois et des mois de procédure. Donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Ça va être la pure avec un coup de mise en demeure d'avocat, ça va être un huissier de justice, ça va être un dépôt de plainte. Et tout ce que vous pourrez faire, c'est évidemment de mettre la pression, mais jamais, jamais d'obtenir une décision de justice dans un délai de 48 heures comme il existe aujourd'hui devant le juge administratif.
Non, mais le TA, en plus, le tribunal administratif n'aime pas critiquer le juge standard du civil ou du pénal. Ils disent, en fait, il est indépendant, puis ils n'aiment pas rentrer dans les procédures. Procédure pour les critiquer.
Oui, bien sûr. Après, les juges, il y a un dialogue des juges, hein, mais effectivement, c'est pas un juge. Il y a toujours un devoir de réserve. Hein, reste quand même un agent de l'État.
Bien sûr.
Donc, il n'a pas commencé à critiquer le mauvais fonctionnement de l'État.
Il nous reste 2 minutes. J'ai des petites questions mitraillettes. Là, première question mitraillette. Vous envoyez des recommandés au greffe des prud'hommes, par exemple, pour demander quelle est la composition de ça, ou alors au JAF, au JDE, pour avoir, par exemple, vous voulez savoir si le juge là est vraiment juge, s'il a bien été. Voilà, vous envoyez des recommandés, vous répondent pas. Qu'est-ce que vous faites ?
L'absence de réponse est une réponse.
D'accord, alors, ils ne peuvent pas répondre. Okay.
Là, donc si vous n'avez pas de réponse, c'est que c'est non. Là, ce que vous évoquez, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est vous vous demandez en fait si la composition de la juridiction est effectivement indépendante et impartiale.
Voilà. Tiens, vous ne trouvez pas dans un officiel la nomination du juge. Vous voulez savoir si jamais cette personne est bien juge, qu'elle a. Enfin, vous demandez, vous posez la question. Est-ce qu'ils peuvent vous répondre ?
Alors, ils ne sont pas obligés de vous répondre, mais par contre, si vous apportez la preuve qu'il y a des éléments qui permettraient de penser qu'il n'est pas indépendant et impartial, vous pouvez faire ce qu'on appelle une requête en récusation.
Oui, donc, c'est la récusation.
Vous pouvez demander au tribunal de récuser la personne qui va être amenée à juger votre affaire. Parce qu'il y a des éléments que vous apportez, c'est vous qui devez apporter la démonstration, qui laisse penser que le magistrat ne sera pas indépendant et impartial.
Ok. Dernière petite question. Un juge fait une faute, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas un code, il prend une décision qui est un abus de pouvoir. Quels sont les recours ?
Il est indépendant et impartial.
Bah oui, mais...
L'avantage a également ses défauts. Il est indépendant et impartial, donc il ne doit pas craindre de représailles sur sa carrière ou sa personne en raison d'une décision de justice, y compris si cette décision de justice est mauvaise. Donc vous ne pouvez rien faire. En revanche, il y a bien évidemment une juridiction suprême, le Conseil supérieur de la magistrature, qui peut être amené à condamner et à sanctionner des magistrats lorsqu'ils ont commis des manquements. Mais évidemment, il faudrait vraiment qu'ils causent une faute professionnelle d'une particulière gravité pour qu'ils puissent être sanctionnés demain. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que même si vous êtes un mauvais juge, il n'y a pas de représailles pour vous.
D'accord. Et si vous faites un abus de pouvoir, vous dépassez de vos fonctions, de vos périmètres de compétences, il n'y a pas de responsabilité personnelle, jamais.
Non, il faudra démontrer que c'est une faute d'une très particulière gravité.
D'accord, très bien. David Guyon, on vous trouve comment ?
On me trouve partout, puisque j'ai effectivement un site internet qui est plutôt bien référencé. Hein.
Oui, et qui est très clair, qui est très bien fait, c'est absolument, oui.
Également sur tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, YouTube, 70 000 abonnés quand même, un peu plus. Donc on espère que les gens, parce que chaque semaine, on fait des contenus qui, je l'espère, plaisent à notre public. On est présent également sur Instagram et sur Facebook, pareil, on a une très belle communauté qui nous suit. Et puis surtout, on répond aux messages.
Chaîne YouTube remarquable, qui est une source d'information, qui est extrêmement formatrice, que je regarde régulièrement et sur laquelle vous abordez beaucoup de sujets très divers pour expliquer aux gens.
J'essaye de partager mon savoir. Vous voyez, je vais vous expliquer comment je suis arrivé à cette logique de me dire, tiens, il faut que je partage mon savoir. Le premier point, c'est que je suis issu d'un milieu populaire assez pauvre. Et évidemment, le monde judiciaire et le monde des avocats, c'est un monde pour lequel on avait extrêmement peur. Peur pourquoi ? Parce que c'est cher. Peur parce que c'est pas dans nos habitudes de consommation. Et puis peur parce que on a plein d'idées reçues sur le monde de la justice. Et je me dis, tiens, c'est dommage parce que s'il y avait eu un avocat à l'époque qui était capable de me vulgariser un certain nombre de choses, peut-être que mes parents auraient vécu moins d'injustice. Ça, c'était le premier. La deuxième chose, c'est que j'avais plein de choses intéressantes à raconter. Et lorsque je contactais des médias, j'avais pas forcément un retour. Pourquoi ? C'est pas l'actualité qui fait les médias. C'est les médias qui font l'actualité. C'est eux qui décident si un sujet est digne d'intérêt ou non. Or, c'est dommage, parce que tous les jours, il y a des sujets incroyables qui mériteraient d'être diffusés et partagés avec le plus grand monde. Et malheureusement, c'est pas le cas. Moi, j'avais envie de parler d'autre chose, et effectivement, la chaîne YouTube me le permettait. Le troisième point, c'était le constat qui était le suivant, c'est que vous pouvez décider d'offrir vos services. Vous dites, tiens, il y a des sujets qui sont dignes d'intérêt, j'offre mes services et je travaille gratuit. J'ai plein de confrères qui font ça. C'est un piège. C'est un piège, pourquoi ? Parce que vous n'aidez personne. Vous n'aidez pas les clients pour lesquels vous êtes en train de travailler gratuitement, parce que, de toute manière, vous allez avoir des ressources financières qui vont être limitées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vous qui financez le recours de votre client. Première chose. Donc, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, parce qu'à un moment donné, vos propres ressources financières sont limitées. La deuxième chose, c'est que comme vous ne facturez pas, vous n'avez pas non plus la capacité d'avoir un cabinet structuré. Or, pour traiter beaucoup de dossiers avec de la qualité, vous devez avoir une équipe. Vous voyez, moi j'ai une équipe, on est 12. Je peux pas être là en train de faire les vidéos, traiter les dossiers, répondre au téléphone, envoyer des mails, c'est impossible. Donc on est 12. Et la troisième chose, c'est que si vous commencez à facturer parce que vous avez besoin de trouver un équilibre financier dans votre travail, eh bien vous allez forcément avoir des personnes que vous ne pourrez jamais toucher et qui, évidemment, subissent des injustices. Alors, je me suis dit, je peux pas offrir mon temps et mon travail à tout le monde. Par contre, je peux faire des vidéos et peut-être que j'aurai plus d'impact grâce aux vidéos que je suis en train de faire parce que je vais toucher plus de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui ne va rien me coûter. Ça va pas me coûter de faire une émission. Alors, ça va me coûter 1h30 de mon temps et les 2 heures de préparation de l'article. OK. C'est 3 heures dans ma semaine. Je peux le donner à la communauté. Je peux le donner parce que de toute façon, ça me sera rendu. YouTube me rémunère. On a des personnes qui souscrivent à la chaîne et qui nous soutiennent. On les remercie d'ailleurs. Ils sont un peu plus de 54. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et évidemment, ça nous apporte de la notoriété et des clients. La vie me le rend. Et moi, je trouvais que c'était bien, avec cette chaîne YouTube, de pouvoir partager et d'impacter finalement la vie et peut-être de cette manière combattre d'autres injustices. C'est pour ça que cette chaîne, je l'ai créée. C'est pour ça que je la fais toujours vivre 4 ans, bientôt... Non, ça fait 5 ans. Bientôt 6 ans, là, en novembre.
Non, mais c'est intéressant. C'est un puits de savoir qui est intéressant. C'était David Guyon, la suite des programmes sur RLP. Nous continuerons un petit peu après en off. Ce sera disponible sur la chaîne YouTube. Je vous dis à tous à la semaine prochaine et bonne soirée. Monsieur Guyon, merci et au revoir.
Merci, merci, au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.